Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans SLS Podcast, une émission présentée par Clara et moi-même et préparée par Mason et Gaëtan. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la surconsommation. Plus précisément, nous allons vous poser la question suivante. Peut-on échapper à la surconsommation ? Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire exactement la surconsommation ? Pour mieux comprendre, nous allons faire appel à un spécialiste de la question.
La surconsommation, c'est lorsque l'on consomme au-dessus de nos besoins, et cela engendre une surexploitation des ressources naturelles.
Merci Romain pour ces explications. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce que pense le grand public. Gaëtan s'est rendu dans un centre commercial en pleine période de soldes pour poser quelques questions.
Nous sommes en direct de Mulhouse Centre, plus précisément à Porte Jeune, avec Mason, qui est venu spécialement pour refaire sa garde-robe. Nous lui avons donc posé la question suivante : peut-on échapper à la surconsommation ? Voici sa réponse.
Personnellement, c'est très compliqué, voire impossible d'y échapper, parce que la tentation elle est vraiment partout. Et honnêtement, les soldes, c'est vraiment une super excuse pour acheter des nouveaux vêtements et tout. Et moi, personnellement, je sais que je craque tout le temps et je finis toujours par dépenser.
Merci Mason pour ta réponse. Maintenant, nous allons explorer un autre aspect, la pression de la société. Amel et Ella se sont penchées sur la question. Voici ce qu'elles ont découvert.
On pense que dans un monde où tout est basé sur la production et la surconsommation, c'est presque impossible d'y échapper complètement. Dans la société, la pression sociale joue un rôle énorme sur la façon dont on agit et comment on se sent. Même si c'est pas toujours évident, ça peut vraiment avoir un gros impact sur notre mental et nos relations avec les autres. Par exemple, avec Apple, t'as l'impression qu'il faut avoir le dernier iPhone pour être bien vu, et si tu n'as pas, tu te sens vite à part. Ça montre à quel point le regard des autres peut peser sur nous et ça nous affecte fortement. Cette pression sociale se montre de plein de façons, mais surtout dans le besoin de faire comme tout le monde, d'adapter certaines habitudes ou de montrer une certaine image. C'est encore plus vrai chez les adolescents parce que l'apparence compte beaucoup pour se faire accepter.
Se faire rejeter ou mettre de côté, c'est aussi une forme de pression sociale. Ça peut causer de la solitude, un manque de confiance en soi, du stress ou même une dépression. Quand quelqu'un se sent exclu ou ignoré, il peut voir ça comme une menace contre lui-même et ça peut vraiment peser sur son moral. Un bon exemple, c'est le syndrome FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de rater quelque chose. Cette angoisse vient du stress de ne pas être au bon endroit au bon moment avec les autres. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène, parce qu'on passe notre temps à se comparer aux autres et ça peut vite nous faire sentir mal. Quoi qu'on fasse, on reste pris dedans. Même en essayant de consommer moins, on finit toujours par suivre le mouvement. Le système, la société, tout est fait pour qu'on ne puisse pas vraiment en sortir.
Nous voyons bien que la pression sociale joue un rôle énorme dans notre façon de consommer.
Oui et non, il faut trouver des solutions pour échapper à l'affluence de la publicité. La publicité, ce n'est rien d'autre qu'une technique de manipulation légale. À force d'entendre ou de lire tout le temps le même message, il finit par s'ancrer dans notre tête. Or, on visionne en moyenne plus de 100 pubs chaque jour. Nos esprits sont formatés, notre désir de possession sont constamment entretenus. C'est la manipulation de masse. C'est-à-dire que si vous ne possédez pas telle chose, vous n'êtes pas cool ou encore vous êtes gênant. Tout d'abord, il y a des lieux avec beaucoup de publicité, comme dans les stades de foot, les devantures de magasins et même les transports et plein d'autres lieux où on ne se rend même pas compte. Et une personne reçoit environ 15 000 stimuli commerciaux chaque jour. Ensuite, il y a des solutions pour échapper au matraque publicitaire. En 2020, dans un rapport qui s'appelle le Big Corpo, une vingtaine d'associations écolo ont réclamé notamment les limitations suivantes, comme par exemple l'interdiction des écrans publicitaires, la création d'espaces sanctuarisés où la pub sera interdite et l'interdiction de la publicité pour certaines activités et produits très polluants comme les SUV, les bouteilles d'eau en plastique jetable, etc. Pour finir, il y a la Convention citoyenne qui prend le contre-pied de la pub en proposant de mettre en avant des pubs qui sensibilisent aux enjeux environnementaux par exemple.
Tout à fait. Et en plus de cela, la publicité a un impact énorme, surtout dans le domaine de la fast fashion. Louane, quel est votre avis là-dessus ?
Alors déjà, la fast fashion désigne une tendance qui est répandue dans l'industrie de la mode, qui renouvelle des collections ultra rapides. Shine symbolise une ultra fast fashion pour moi. C'est une entreprise chinoise qui vend des tonnes de vêtements à bas coût et qui font travailler des ouvriers avec salaire bas et des heures de travail énormes. Aujourd'hui, comme beaucoup d'adolescents, on commande une fois par mois. J'achète des vêtements ou des accessoires dont j'ai pas forcément besoin. C'est à cause des réseaux sociaux qui m'influencent plus principalement, comme TikTok. Ce qui est inquiétant, c'est le réchauffement climatique que fait la fast fashion sur la Terre à cause de l'effet de serre qui est provoqué par les avions. Derrière la fast fashion, il y a des entreprises puissantes qui sont reliées sur les réseaux sociaux et qui est difficile d'y échapper.
La fast fashion, c'est un bon exemple. Et nous voyons qu'elle est souvent liée à un autre exemple, l'obsolescence programmée.
Tout savoir sur l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée est le fait de délibérément restreindre la durée de vie d'un produit. C'est une technique mise en place par les industriels pour faire un maximum de bénéfices sur leur matériel. Ils prévoient une durée de vie limitée pour leurs produits, ce qui force les consommateurs à en acheter plus souvent. Cette méthode est beaucoup utilisée par des grandes entreprises comme Apple, qui chaque année proposent des mises à jour sur leurs produits phares, par exemple les iPhones. Au fil des années, les mises à jour ne sont plus supportées par les anciens modèles, ce qui les rend obsolètes et oblige à acheter les dernières sorties.
Très intéressant tout ça. Pour continuer, nous retrouvons maintenant Fexa, qui va nous présenter une BD qui parle de surconsommation.
Bonjour, je suis sociologue spécialisée dans les comportements de consommation et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre écrit par Élise Rousseau. C'est un livre qui parle de la surconsommation et de nos tendances à acheter trop de choses inutiles. Mais pourquoi j'ai acheté tout ça ? Dans ce livre, Élise Rousseau raconte comment elle s'est retrouvée envahie par des objets dont elle n'avait pas besoin. Elle cherche à comprendre pourquoi nous achetons autant et identifie plusieurs raisons comme la publicité, le plaisir, la pression sociale ou encore l'ennui. Un exemple qui m'a marqué dans le livre, c'est que l'autrice nous fait part de la pression quotidienne vis-à-vis de la surconsommation. Tout commence dès l'enfance avec des phrases comme « Quoi ? T'as pas la dernière console ?» et déjà on sent cette pression de devoir avoir ce que les autres ont juste pour être inclus. Il y a bien sûr le désir de possession qui nous pousse à consommer, mais aussi certaines peurs et angoisses. Ensuite, elle partage ses propres expériences avec beaucoup d'humour et propose des conseils pour consommer de façon plus responsable. Par exemple, se poser les bonnes questions avant d'acheter, éviter les achats impulsifs, apprendre à se satisfaire de ce qu'on a et se méfier des promotions et du marketing. En effet, c'est le besoin d'appartenance qui nous motive d'être comme les autres.
Merci beaucoup Fixa. Nous poursuivons avec Inès qui va nous parler d'une vie décroissante.
L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, renouer et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur au lieu de les jeter. Par exemple, H&M propose un service de collecte de textiles au magasin afin de lutter contre le gaspillage et préserver les ressources naturelles. Les clients, qui rapportent des vêtements dont ils ne se servent plus, reçoivent des bons d'achat pour les inciter à le refaire. Les vêtements collectés peuvent être revendus sur des marchés de seconde main.
C'est vrai que les modes de vie décroissants prennent de l'ampleur. Mais concrètement, qu'est-ce que le minimalisme ?
Être minimaliste désigne une personne qui suit le principe du minimalisme, c'est-à-dire l'idée de vivre avec moins en se concentrant sur l'essentiel. Être minimaliste, c'est chercher à se libérer du trop-plein pour vivre de façon plus claire et apaisée. Il existe différents degrés du minimalisme. Le documentaire « Une vie minimaliste, un luxe » diffusé par Arte montre que le minimalisme peut prendre différentes formes selon les personnes. Par exemple, Fred Mund vit seul, sans électricité ni eau courante, pour protéger la nature. C'est un choix très différent pour son type. Christine Neider a choisi une vie plus calme et organisée, en quittant la grande ville pour s'installer au Portugal, tout en partageant ses idées sur les réseaux sociaux. Suite à l'exposition de son quotidien sur Internet, Christine influence d'autres personnes à suivre le mouvement du minimalisme. Le documentaire montre bien que chacun peut vivre le minimalisme de façon selon ses envies et ses besoins.
Merci Amina. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble de la surconsommation, voyons comment cela se manifeste chez nous. Un sondage a été réalisé dans notre lycée Michel de Montaigne. Voici les résultats.
D'après notre sondage, la majorité des répondants reconnaissent être parfois influencés par les publicités, environ 67%. De plus, 63% ont déjà regretté un achat fait sous l'impulsion des soldes. Ensuite, 36% des répondants se sentent jugés si elles ne portent pas les dernières tendances. Cela est encore plus fort chez les moins de 17 ans où 46% se sentent jugés. Pour lutter contre la surconsommation, trois quarts d'entre eux donnent ou échangent des objets, surtout chez les plus de 40 ans, où cela atteint 84%. Un autre moyen de moins produire est la réparation des objets. Chez les personnes interrogées, 44% le font parfois et 22% le font souvent, surtout chez les plus de 40 ans, où plus de la moitié le font régulièrement. Lorsque ce n'est pas possible de réparer et qu'il faut racheter, il est plus écologique d'acheter des objets reconditionnés ou de seconde main, comme 84% des répondants.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Grâce à vous, nous comprenons mieux la surconsommation et ses effets. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt dans CSLS Podcast.